Bonjour Issa. Alors aujourd'hui, bon, il y a les livres qui entourent toujours l'entretien. Alors ça sera pour aujourd'hui l'Escadron bleu, nos accords imparfaits et funeste amour. En tout cas, aujourd'hui, on va parler de la biographie dessinée qui est devenue un genre à part entière. La bande dessinée apportant une représentation sensible, inscrivant la personne présentée par la biographie dans une réalité concrète. Avec Lou Andreas Salomé, Si tu veux une vie, vole-la, la biographie dessinée acquiert une nouvelle ampleur. Séverine Vidal et Olivia Sautreuil nous font rencontrer cette écrivaine longtemps présentée comme la muse de Nietzsche, de Rilke ou de Freud. C'est par l'écriture dessinée qu'elle acquiert ici toute sa dimension. Nous serons avec Olivia Sautreuil, dessinatrice de cette biographie, vers 14h15. D'autres, donc. À tout de suite, générique! Écriture dessinée. Bonjour à toutes et à tous. Donc Issa est à la technique. Tout va bien. Et puis si je récupère mon papier. La programmation musicale a été faite par Olivia Sautreuil et nous allons écouter successivement Patrick Watson avec Look at You, Dominique Fils Aimé avec Old Love et puis les Sonic Youth avec Superstar. Une brève, le jury des prix Artemisia a décerné ses lauréats 2026, c'était au mois de janvier, et le prix Artemisia, qui a été créé en 2007 par Chantal Montellier et Jeanne Puchol, a rassemblé donc hommes et femmes pour le jury, et le Grand Prix 2026 a été attribué à La tête de mort venue de Suède, Daria Schmidt, chez Dupuis dans la collection Air Libre. Daria Schmidt a été notre invitée à l'occasion de la parution de son livre, et c'est la force de la narration et la singularité de son univers graphique qui ont été récompensés. Cinq autres prix mettent en lumière la création féminine en bande dessinée, et ils ont donc été décernés. Pour avoir la liste de ces prix, pour plus d'informations, vous pouvez aller sur le site Actualité avec l'IT, avec deux T pour la partie littérature, et c'est un site sous-titré Les univers du livre. Les Shadocks. Alors, je voudrais commencer avec un premier livre signé Le Pont et au Lanier. Alors ça, c'est la pratique de la collection Air Libre de mettre les deux noms en couverture. Et donc, il s'intitule L'Escadron bleu 1945. Il est signé pour le scénario par Virginie Aulagnier et pour le dessin par Yann Lepont. C'est un récit biographique qui nous fait découvrir un pan de la Seconde Guerre mondiale et surtout de l'après, qui est souvent resté sous silence. C'est l'émission de l'Escadron bleu, qui est un groupe de femmes. Principalement, il y a quelques hommes qui ont été associés à cette entreprise, cette mission, et qui sont chargés d'aller chercher les ressortissants français à la sortie des camps, dans différents endroits qui ont été marqués par la Seconde Guerre mondiale, et qui donc ont œuvré pour avoir pleinement, pour remplir pleinement leur mission. Plus précisément, le récit. avril 1945, la médecin lieutenant Madeleine Polyak est envoyée à Moscou en mission par De Gaulle. De là, elle est nommée à la tête de l'hôpital français de Varsovie pour rapatrier les quelques 300 000 Français errant dans la Pologne libérée par l'armée rouge. Au même moment, en France, 11 jeunes femmes s'engagent comme volontaires pour la Croix-Rouge. On surnomme ce groupe mobile l'Escadron Bleu en raison de la couleur de leurs uniformes. Elles s'appellent Violette Guillot, Janine Robert, Simone Saint-Olive, Aline Tchoup, Cécile Stifler, Charlotte Pagès, Michel Reveron, Jacqueline Henniger, Elisabeth Blaise, Simone Brave, Bray et Françoise Lagrange. La guerre les a réunies à bord de leur ambulance alors qu'entre Est et l'Ouest se dessine une nouvelle ligne de front. Elles sillonnent les territoires ravagés pour mener à bien cette opération de sauvetage sans précédent. Donc ce récit autobiographique est une reconstitution et c'est déjà une force de la bande dessinée, cette capacité à pouvoir créer des images dont on n'aura pas de témoignage photographique. Lorsqu'on est en littérature ou dans un essai, on peut décrire à partir des éléments qu'on a, on n'a pas de visuel. Lorsque on fait un témoignage photographique, ou filmé, si on n'a pas l'élément de base, on ne va pas l'inventer. L'intérêt du dessin de la bande dessinée, c'est que très facilement, on va pouvoir imaginer les scènes, on va pouvoir permettre qu'elle se déploie en toute vraisemblance et on est ainsi plongé dans cette évocation de le juste après la Seconde Guerre mondiale. Alors, il y a dans ce récit, qui est un récit d'ampleur, il se déploie sur 152 pages, donc on peut vraiment suivre l'escadron. On va découvrir, bien sûr, les horreurs de la guerre. Il y a ce qui a été fait dans les camps par les nazis qu'on touche de près, puisque l'escadron bleu va pouvoir exfiltrer des personnes qui étaient dans ces camps. Mais il y a aussi ce qui s'est passé avec l'armée russe, où il y a eu un très grand nombre d'exactions, et notamment des personnes tuées, des viols, et c'est montré aussi très clairement. Donc cette présence des atrocités de la guerre est bien évidemment inhérente au thème, mais la façon dont c'est traité, il y a cette pudeur qui fait que l'image ne va pas s'arrêter sur le moment même de la violence, mais ça va être pour montrer et encadrer sa représentation par les moments avant, après, ou les conséquences qui vont avoir lieu. Il y a notamment l'escadron bleu qui va rencontrer des nonnes d'un couvent qui ont été violées par l'armée russe. Certaines sont enceintes. Et il y a vraiment, pour Madeleine Polyak, l'absolue nécessité d'apporter à la fois un réconfort, mais aussi une solution pour que ces femmes sortent du déshonneur dans lequel elles se sentent. Il y a donc toute cette partie de la sororité qui est à l'œuvre, aussi bien à l'intérieur même de cet escadron bleu, donc je vous ai cité l'ensemble des participantes, mais aussi avec donc ces femmes comme ces nonnes qui vont recevoir le soutien de l'escadron bleu. Maintenant, il y a quelques réserves que j'ai, mais c'est plus par rapport à la mise en image. Est-ce que en bande dessinée, on peut tout faire ? Il y a pour moi quelques réserves que j'ai, notamment par exemple sur la géographie des bulles. Alors, c'est-à-dire le placement des bulles dans la page, dans la double page, dans la case même simplement, où à des moments, quelquefois, on a la lecture de la réponse avant la question. Ça fait partie des interdits que tous les enseignants en bande dessinée donnent à leurs étudiants. On ne peut pas, ce n'est pas possible. On ne peut pas créer une distorsion dans la lecture. La distance qui va se créer entre le lecteur et le récit va pâtir de cette situation. Puis il y a notamment des vignettes où on a deux personnes qui discutent. Et on a toute une tirade, tout un dialogue qui va séparer les deux personnes. Là aussi, le placement des bulles est essentiel. Notamment, on utilise le haut de l'image pour placer plus facilement les bulles et on compose l'image en dessous pour qu'on soit toujours dans cette lisibilité, dans cette relation texte-image qui sera des plus fluides. Il y a, alors, Yann Le Pont est un artiste qui a fait beaucoup d'animation, qui est enseignant de dessin, mais plus du côté illustration, et là, il se confronte à la narration en bande dessinée. Et il y a, on sent des réflexes d'animateurs, de réalisateurs ou d'illustrateurs qui ne sont pas encore pleinement dans cette narration en image avec une juxtaposition, puisque lorsque vous ouvrez une double page, eh bien vous avez aussi la possibilité de voir la fin de la page de droite, donc d'avoir un certain nombre d'informations, et les auteurs jouent avec ça. Et donc là, on a encore une bande dessinée avec des pages où les cases sont très fractionnées, se réduisent. On arrive à être facilement sur du 5 bandes. La taille des cases prend une amplitude trop importante pour qu'on ait cette unité du récit essentielle à l'intensité de la lecture. Il y a après quelques questions, quelques remarques, réserves que j'ai sur la gestuelle. Alors, on sent que l'auteur va prendre de l'assurance dans cette écriture dessinée pour la bande dessinée, et donc les mains vont être plus précises, mais parfois dans la gestuelle, dans l'habillement, dans la façon de dessiner les coiffures, comment les femmes portent le calot. Et il y a des moments, on a l'impression qu'il va se casser la gueule et que ça va pas le faire, quoi. Et donc là, c'est tous ces détails qui sont des réserves, parce que le récit tient par son intensité, parce qu'il apporte sur notre connaissance de l'histoire. Il y a une couverture aussi qui est très engageante, mais il y a, je pense, une marge de progression très importante pour Yann Le Pont dans cette façon qu'il va avoir de s'approprier l'écriture dessinée dans le cas de la bande dessinée. L'Escadron Bleu, 1945, est un roman graphique, puisque la partie fiction permet de reconstituer la totalité des dialogues et même de scènes dont on n'a pas d'autres éléments graphiques et photographiques. Donc, c'est signé pour le dessin par Yann Le Pont et Virginie Olanier pour la partie scénario. Les 152 pages de ce livre sont au prix de 25 euros. Et le livre a été imprimé, et je vais vous le dire, il a été imprimé en Belgique. Alors, toujours avec à la fois la création féminine en bande dessinée, c'est essentiel d'appuyer cette création par de plus en plus d'autrices, dessinatrices, scénaristes. Et Nos accords imparfaits affirment là l'écriture dessinée de Cécile Dupuis. Et Nos accords imparfaits est écrit avec Gilles Marchand. C'est un projet commun. Donc Gilles Marchand est musicien, mais c'est aussi un écrivain de nouvelles, de romans. Et donc, Cécile Dupuis, qui elle est illustratrice, dessinatrice de bande dessinée, eh bien, ils se sont rencontrés et ils ont imaginé ce récit, Les accords imparfaits. Le récit. Anton et Hélène vivent ensemble, respirent ensemble, font tout ou presque ensemble. Elle est violoncelliste, il est livreur, elle joue, il l'écoute et la regarde, le temps s'écoule, et les silences commencent à s'installer entre eux. Anton ne parvient pas à parler à Hélène. Par le biais d'un mystérieux colis, la vie va lui offrir une chance de réparer leur lien défait. Trouvera-t-il au fond de lui la force d'aller au bout de cet étrange voyage ? Le livre est riche des partis pris des auteurs, sachant qu'il y a vraiment une collaboration importante entre le scénariste et la dessinatrice. Et donc, quand on feuillette, immédiatement, on voit qu'il y a un rapport à l'image qui est inhabituel, qui est vraiment de parti pris, avec notamment un nombre de cases assez réduit, une régularité dans la mise en scène, c'est-à-dire ces trois bandes d'images qui vont composer chaque page, avec bien sûr toujours quelques variations, mais en tout cas une hauteur d'image qui, comme au cinéma, va créer cette unité de récit. Et on sent chez Cécile Dupuis une volonté d'une sobriété dans les décors. C'est-à-dire qu'on ne va pas rajouter du décor et du décor pour dire qu'on fait bien les perspectives, que tout est parfait, tout est au plus proche. Mais il y a vraiment une volonté de simplifier les décors pour qu'ils créent un espace, mais où le vide semble là, semble participer aux scènes. Et scénaristes et dessinatrices vont tirer ce fil pour que dans les cadrages, dans les situations imaginées, eh bien, le vide, la distance qu'il peut y avoir dans un couple au bout de quelques années, cette difficulté à être après ces différentes, toutes ces années avec l'autre, à être soi-même. Et donc, il y a cette écriture où le décor va jouer sur une représentation assez fine du trait, avec des espaces bien délimités. Ce trait est précis, assez fin. Et on n'a donc pas de moulure, de décor, de variations inutiles sur les architectures, juste ce qui permet de bien situer à chaque fois le contexte. On rentre dans ce récit avec beaucoup de plaisir. Le feuilletage nous a donné toute cette dimension et cet espace de la case qui participe aux interrogations du personnage d'Anton. Et on va découvrir un mouvement dans la mise en image, dans la mise en couleur, où la solitude d'Anton, sa difficulté à dire et à être lui-même avec sa compagne, et la mise en couleur, le traitement de l'image qui peut être plus symbolique, plus onirique, un passage en noir et blanc, une double page où Anton va se retrouver finalement à une chaise où sa compagne n'est plus là. C'est très astucieux et il y a un moment où le changement va être apporté par une sorte d'explosion populaire, de fête, où il est reconnu, acclamé. Et là, les couleurs changent, le ton change, la mise en scène même prend une autre tournure sur les cadrages. Et donc c'est avec beaucoup d'inventivité, de créativité, que Cécile Dupuis va composer et mettre en image ce récit. Il y a un point qui reste toujours, vous l'avez sans doute repéré, c'est un peu une de mes marottes, c'est-à-dire le lettrage. Qu'est-ce qu'on fait du lettrage? Comment il exprime la narration? Alors les dialogues sont écrit de façon manuscrite. Et puis, il y a toute une partie sur les pensées qui avaient besoin d'être un peu décalées par rapport à l'écriture des dialogues, mais où là, les auteurs ont choisi la police de caractère plutôt courante et ça a du mal à vraiment passer. Pourquoi cette distance? Pourquoi les pensées même d'Anton ne sont pas exprimées avec un caractère manuscrit différent, avec une autre approche qui permettait de voir tout de suite que c'était ses pensées à lui et que de s'imposer et d'imposer aux pages, aux cases, ces textes qui sont avec cette police de caractère. Le livre reste vraiment une façon d'ouvrir l'écriture en bande dessinée, d'ouvrir ce chantier de l'espace de la case et jusqu'où on peut aller avec des liens, par exemple, avec des auteurs comme Jim Bishop, qui est aussi dans ce type de représentation. Cécile Dupuis et Gilles Marchand, Nos accords imparfait, donc est publié par les éditions Casterman. Les 160 pages de ce livre sont au prix de 25 euros. Alors là aussi, je me replonge dans le livre pour vous dire où il a été imprimé, et c'est en France. Musique.
Such a beautiful day. Must have been the company. It's not that it was extraordinary, just out the ordinary. Stood up and was staring back at me. It's not a thought that I could hear. There's a thousand person choir singing in my ears, into drowning into it happily. Do you escape?
Andreas Salomé fait partie de ces femmes que l'histoire a trouvées rangées derrière les grands hommes. Le titre de cette biographie dessinée, Si tu veux, une vie, vole-la, est une citation de Lou Andreas Salomé, autrice brillante, penseuse libre, refusant dans sa relation complexe et intense avec Friedrich Nietzsche, Rainer Maria Rilke, Paul Rey, ce rôle d'épouse, de mère, de partenaire sexuel avec Freud, avec qui elle entretiendra une correspondance pendant plus de 20 ans, elle refusera son enseignement, voulant comprendre par elle-même. Lou Andreas Salomé exprimait un puissant amour de la vie et une joie comme force inspirée de Spinoza. La scénariste et écrivaine Séverine Vidal rend saillante la personnalité de Lou Andreas Salomé, femme complexe, généreuse, narcissique, intrépide, agaçante, donneuse de leçons, vivante, drôle, incandescente. Elle s'est imposée dans ce 19e et 20e siècle dominé par les hommes. Son questionnement incessant du narcissisme, des rapports humains et de la féminité en fait une personnalité toujours d'actualité. Pour mettre en image cet esprit libre, Olivia Sautreuil adopte la même liberté. Refus d'un réalisme restrictif, recours à un expressionnisme incandescent, double page contemplative, souplesse du trait telle une calligraphie orientale, palette réduite et contrastée, fond uni, parfois régulier, images, pages et double pages d'une grande fluidité de lecture, une mise en scène nous gardant au plus près de Lou et des autres personnages. Le trait d'Olivia Sautreuil porte en lui cette dose d'impertinence qui fait merveille. Nous sommes avec Olivia Sautreuil pour qu'elle nous emmène sur les traces de Lou Andreas Salomé. Bonjour Olivia Sautreuil.
Bonjour.
Alors, comment s'est passé le travail avec Séverine Vidal? Comment avez-vous mis en place ce projet? Est-ce que vous êtes intervenu dès le début?
Non, en fait, notre éditeur, David Croison, a discuté avec Séverine à l'occasion de la sortie d'un autre ouvrage et il lui a demandé si elle connaissait Lou Andreas Salomé. Et comme beaucoup d'autres personnes, elle en avait entendu parler, mais pas finalement pour son travail à elle. Et donc pendant un week-end, elle s'est plongée dans tout ce qui était disponible par Internet et elle est sortie de ce week-end convaincue que ce serait sa prochaine biographie. Donc c'est Séverine qui et David Groison donc, qui sont à l'origine de ce livre et Séverine voulait que le livre soit illustré en couleur et David m'a donc proposé la mise en dessin de la vie de Lou.
Alors, comment vous êtes rentré pleinement dans ce projet? À quel moment la visualisation de ce récit intervient?
Alors, dans un premier temps, j'avais lu le scénario de Séverine, qui est quand même... très très fluide, très détaillé. C'était ma deuxième expérience de bande dessinée. La précédente, c'était la biographie de Germaine Richier où il n'y avait pas, le scénario n'était pas aussi abouti. Là, Séverine avait une vision très approfondie des attitudes de Lou et donc très rapidement dans la lecture du scénario, je voyais des images qui s'imposaient assez spontanément. Et puis comme dans mon autre travail, j'ai fait beaucoup de livres documentaires, je me suis quand même beaucoup donc renseignée sur les mouvements artistiques de l'époque ou les tenues vestimentaires, donc j'avais une ambiance comme ça qui se mettait en place. Et après, en suivant le scénario de Séverine, ça s'est monté au fur et à mesure. Le livre est séparé en 7 parties, donc on a travaillé d'abord une première partie, on a mis en place une palette de couleurs et puis après les autres sont venus assez spontanément par la suite.
Comment préparez-vous, Olivia Sautreuil, la mise en scène de ce récit? Comment ça s'est passé?
Les attitudes, enfin le cadrage des vignettes était proposé par Séverine Et donc, ça s'est mis en place en suivant un peu les indications de Séverine. Après, il y a ces doubles pages que Séverine appelait les pages symboliques, qui sont des ellipses où j'avais plus de liberté pour... plus libre, finalement, pour interpréter des ellipses ou des textes de Lou André Salomé ou des correspondances. Et là, j'avais des références à des tableaux de surréalisme, par exemple, pour certaines, et qui se sont assez vite imposés. Ça répond tout à fait à la question.
Alors, justement, est-ce que ce cadre très précis, Olivia Sautreuil, est-ce que ce n'est pas un moment un peu comme un handicap, parce que la liberté de composition est peut-être plus tout à fait la même?
C'était quand même... Séverine avait très bien compris le personnage, et à aucun moment je me suis sentie contrainte dans les mises en scène. J'ai quand même joué certaines positions. Je vois le scénario un peu comme un film qui se déroule, donc je vois ce qui peut venir un peu au premier plan, mais je me suis pas sentie, à aucun moment j'ai eu le sentiment d'être contrainte. C'était précis, c'était rassurant, et quand je faisais une proposition de dessin, on a fait beaucoup d'échanges avec Séverine, elle trouvait que j'avais bien compris, et j'avais pas je trouvais que c'était juste comme vision. Donc j'ai pas le sentiment d'avoir été contrainte. Et puis après, la couleur est venue par-dessus le trait, et là aussi j'ai trouvé ça très 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 réconfortant. Enfin, on était d'accord sur ces mises en scène.
Olivia Sautreuil, comment recevez-vous le personnage de Lou André Salomé, et qu'est-ce que la complicité avec cette écrivaine est importante dans l'écriture de cette biographie, le dessin de cette biographie?
En fait, c'est une biographie, on commence par... Il y a plusieurs manières d'aborder une biographie. C'est vrai qu'on a suivi quelque chose d'assez linéaire, donc de sa naissance jusqu'à son décès. Mais donc, il y a une mise en place d'une intimité qui se fait avec... elle, petite fille, où on comprend qu'elle a déjà une très très forte indépendance, beaucoup d'humour, une certaine prise de liberté avec la réalité quand elle invente. Donc elle est assez sympathique quand même dès le début, puis elle est assez espiègle. Et on s'était dit que, elle avait, comme c'est ce que Freud disait, qu'elle était une compreneuse, qu'il y avait beaucoup d'intelligence dans son regard et dans sa manière de se tenir. Et donc ça a joué dans la mise en place du personnage, de cette petite virgule qu'il y a au niveau de la bouche, où on sent qu'elle comprend des choses et qu'elle est attentive à ce qui se passe. Après, c'est un personnage qui est varié aussi. On se rend bien compte qu'elle n'est pas toute lisse, et loin de là, il y a des côtés qui nous ont un peu... elle est rugueuse quand même sur certains aspects. Et donc, elle est assez, assez contrastée. Et donc... mais elle reste quand même très très attachante dans son indépendance, dans sa soif d'apprentissage sur elle-même en particulier.
Dans le dessin lui-même, c'est important d'avoir cette proximité, Olivia Sautreuil.
Oui, après, il y a des motifs qui reviennent et qui sont au niveau des cheveux ou des mains ou de son visage qui la rendent quand même très... C'était une femme très belle, donc je ne sais pas si c'est exactement ça la question, mais elle est... par les cadrages, c'est vrai que on la voit évoluer. C'est quand même... on se sent un peu seul une fois que le travail est fini. Je sais que Séverine a beaucoup parlé de ça, de s'être immergée à ce point dans sa vie et d'avoir lu beaucoup de cette correspondance. Elle devient quelqu'un avec qui on pourrait discuter. Et une fois qu'on en sort de ce travail-là, on se sent un peu seul.
Je peux poser ma question un peu différemment. Est-ce que quand vous écrivez, quand vous réalisez une case, une page, que la double page achevée, qu'est-ce qui vous est renvoyé pour que vous disiez, oui, ça y est, là, c'est vraiment elle? Est-ce que, comment se passe cette relation avec le travail achevé?
Bah, c'est vrai que je viens pas forcément du domaine de la bande dessinée. À l'origine, moi, j'ai fait des études d'imprimerie et puis j'ai fait de l'illustration. Et la question de la vraisemblance et de la narration est pas du tout la même dans un livre édité. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai dû retravailler plusieurs fois, de bien identifier le personnage. Il y a toujours des moments où je me dis qu'il y a encore une marge de progression dans la fluidité du personnage et dans l'incarnation. Et c'est ça qui est fascinant avec ce travail d'illustration. Mais je crois qu'on a quand même réussi à bien capter son identité. Je ne sais pas si je réponds tout à fait à la question par là. Mais
rassurez-vous, si jamais ça ne l'était pas, je réagirais. Alors, je vous propose, on va faire une pause musicale avec un des choix de votre programmation musicale, c'est Dominique Fils-Aimé. Et on se retrouve donc dans quelques minutes pour parler un peu plus de dessin, de mise en couleur. À tout de suite.
Tout de suite.
êtes sur Radio Escapade dans l'émission Écriture dessinée. Nous sommes en direct avec Olivia Sautreuil à l'occasion de la parution de son livre Lou Andreas Salomé, si tu veux une vie, vole-la. Et les scénarios sont de Séverine Vidal. Olivia Sautreuil, comment avez-vous simplifié? Pourquoi avoir simplifié le décor? Il y a une proximité avec les personnages qui, à mon avis, est due à cette façon de ne pas en rajouter sur à la fois l'architecture de l'époque, son style, son esthétique. Et vous restez dans une certaine sobriété par rapport à cela. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et pourquoi cette mise en image comme ça?
Alors c'est parce que je me suis posé la question de la lecture. En fait, c'est vrai que en bande dessinée, on doit à la fois regarder l'image et lire le texte. Et il y a certaines planches où j'avais fait des décors beaucoup plus soutenus. Et je m'étais inquiétée qu'à la mise en couleur, ça soit très chargé et qu'ensuite on soit un peu arrêté dans la fluidité de la lecture. Et donc j'ai voulu jouer avec des touches plutôt de couleurs pour certains décors. Après, comme j'expliquais, il y a des courants artistiques qui m'ont intéressée pour donner un cadre à cette histoire. Donc j'étais quand même assez intéressée par le travail de Bonnard ou de Vuillard pour faire de suggérer le décor. Mais par exemple, on comprend qu'on passe de la Russie impériale par certains éléments décoratifs à un appartement berlinois plus sobre, parce qu'elle avait, elle devait vivre plus avec ses publications qu'un soutien familial. Donc on évoque sans forcément rentrer trop en détail, effectivement, pour rester concentré sur le personnage.
Il y a un moment dans le récit qui est très remarquable, c'est le suicide de Paul Rey, avec un cadrage très lointain. Oui. Comment avez-vous approché cette solution et qu'est-ce que vous permet ce plan lointain?
Alors c'était une planche qui était très difficile à faire parce que ça c'est quand même l'évocation d'un suicide, mais il y a une dimension de fantastique dans cette planche, dans le sens où on ne sait pas, on évoque le fait que Paul Rey serait tombé, mais il avait quand même cette fiole de poison autour de son cou, donc il frôlait la mort un peu tout le temps, et on pense que c'était plutôt un suicide. Donc et puis on ne sait pas si elle rêve cette scène, ou si elle est vraiment là, ou si elle la reconstitue. Donc il fallait jouer avec ce trouble de savoir ce qui se passe vraiment et ce qui est imaginé. Donc je la mets en scène dans sa chambre quand elle reçoit la lettre de la mort de Paul Rey, et j'ai rabattu la palette avec un noir, un rouge et un blanc, et je crois qu'il y avait peut-être du gris, je ne me souviens plus très bien, pour accentuer le côté dramatique de cette scène, d'autant plus que c'était en Suisse, dans un décor spectaculaire de chute et de canyon, et c'est immense, et lui et son existence disparaît dans un décor gigantesque. Donc c'est un peu ça que j'ai voulu renforcer.
Olivia Sautreuil, comment avez-vous travaillé les regards? Parce que alors Lou Andreas Salomé, je le disais, a une sorte d'impertinence, une liberté, et comment le faire passer dans les regards? Comment êtes-vous à ce moment-là quand vous dessinez?
Mais il y avait cette petite virgule qu'on mettait au niveau de sa bouche, et comme beaucoup d'espièglerie, et comme je mentionnais, Freud disait qu'elle était une comprenneuse, qu'elle écoutait vraiment, donc elle avait une grande intelligence sociale finalement, et Et donc, il y a beaucoup de, enfin, ça devait se retranscrire effectivement par les yeux, par la manière qu'elle a de jauger un peu les gens, d'être elle est du côté de la vie, comme ses pulsions de vie, donc il fallait que ça se voit au travers de son regard. Donc il y a un peu de c'est un peu accentué par moment pour renforcer cette intelligence. Oui.
Olivia Sautreuil, quels sont vos doutes quand vous dessinez, quand vous mettez en scène, quand vous réalisez un livre tel que celui-là?
J'ai toujours des doutes par rapport à cet équilibre entre style et vraisemblance, comme je viens j'ai fait d'autres ouvrages qui n'étaient pas du tout dans le même domaine. Je viens de la jeunesse, donc il y a des fois où je me demande si c'est trop caricatural, si c'est trop simplifié, si au contraire ça devient trop rigide. Donc ça, c'est des choses qui me travaillent beaucoup. Après, je sais qu'il y a une deuxième couche qui va venir dans la couleur, qui va venir appuyer certains personnages ou permettre au décor de venir aligner le tout. Mais oui, je suis toujours à me demander si c'est tout à fait vu, si c'est tout à fait vraisemblable, si les cases sont fluides. Donc, je doute toujours, mais à un moment donné, il faut prendre des décisions et puis faire confiance aussi aux gens qui nous entourent et qui sont d'accord, qui estiment que le personnage est bien incarné.
J'ai une question sur le lettrage.
Oui.
Il y a différents lettrages dans ce livre, notamment des lettres manuscrites qui sont retraduites. Il y a les séparations, les citations dans les séparations entre les parties. Et puis, il y a les dialogues qui sont portés par une police beaucoup plus numérisée, j'imagine. Mmh. Et pourquoi ce choix? Parce que ça surprend un peu, ça se décale un peu par rapport au trait même, à votre trait même de dessin.
Alors, on savait très tôt, donc avec Aline Lefrère, qui est la directrice artistique de la collection, qu'il y allait avoir un travail typographique qui allait être compliqué parce qu'il y avait différents niveaux de lecture. Comme vous dites, il y a les dialogues, il y a les échanges épistolaires, il y a les citations d'autres livres. Et comme il y avait énormément de niveaux de lecture différents, on a recouru à cette typographie qui est la même que nous avions utilisée pour Germaine Richier. Vous la trouvez trop mécanique, moins pas assez souple peut-être?
Voilà, un peu froide. C'est-à-dire oui. Que l'intérêt et la bande dessinée l'a montré depuis donc très longtemps, la police manuscrite a cet intérêt de sentir le geste de l'auteur. Il y a une unité de trait. Et là, on n'est pas dans la même unité de trait que vos dessins, oui, oui. Par exemple, quoi.
J'entends ça, on a réservé ce manuscrit pour les échanges épistolaires. Donc on l'a quand même mis, mais on s'est posé la question si on devait refaire une typo, et on a tranché pour cette typo déjà existante, qu'on avait déjà utilisée avec un autre de mes ouvrages. Et c'est peut-être encore un débat ouvert, mais voilà.
C'est ce que j'ai fait. J'ai ouvert de mon côté le débat et c'est un débat qui court au niveau de la bande dessinée parce que beaucoup d'artistes numérisent leur écriture ou utilisent des polices comme ça issues de polices numériques.
Et peut-être que pour mon prochain, je ferai numériser une typographie. C'est une idée. On y avait réfléchi, mais je pense qu'on a aussi un peu et peut-être fait une continuité avec le précédent livre. J'avoue que là, c'est un débat ouvert.
Je posais juste le débat.
Non, mais c'est très intéressant.
Merci beaucoup, Olivia Sautreuil. Je vais rappeler donc les caractéristiques de votre livre écrit par Séverine Vidal. Donc, Lou Andrea Salomé, si tu veux la vie, vole-la. Si tu veux une vie, vole-la. Et donc, c'est publié par Bayard Graphique dans la collection Pop Woman Selection.
Et c'est le label.
Oui, c'est le label.
Une sélection, mais c'est pas la collection.
C'est-à-dire
le Pop Woman Festival, c'est un festival qui a lieu à Reims. Il a été sélectionné pour ce festival, mais ça fait pas partie de Bayard.
D'accord. Alors c'est pas très clair parce que quand j'ai reçu le dossier de presse, j'avais l'impression que c'était une collection chez Bayard.
Mais c'est dans la collection Bayard Graphique.
Merci de cette précision. Donc c'est Bayard Graphique qui maintenant publie des romans graphiques, entre autres. Et donc les 240 pages de ce livre sont au prix de 25€. Il a été imprimé en Belgique. Très bonne continuation à vous. Merci.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir. Finir, je voudrais vous présenter Funeste Amour de Charles Burns. Charles Burns est un dessinateur américain qui a une précision graphique. Il en a fait un style et il porte cette précision dans chacun de ses livres. Alors, c'est pas simplement une précision graphique pour exprimer de façon très réaliste une scène, des personnages. Il y a une volonté de perturber aussi constamment cette perfection du dessin par des éléments fantastiques qui, par exemple, dans un de ses derniers livres, Caprice, qui est publié dans la même collection que ses Funestes Amours, eh bien, reprenait un ensemble de couvertures, et pour chacune des couvertures, eh bien, il y avait toujours un élément perturbant, parfois c'était presque rien, mais souvent il y avait cette façon dans cette esthétique des années 50, d'apporter cet élément qui devenait perturbant. Alors, Funeste Amour va répondre en fait à Caprice. Ça va être une sorte de miroir narratif dans la mesure où cette fois Charles Burns va créer et écrire trois récits qui sont imbriqués avec des personnages qu'on va retrouver,
qui vont être des situations bien distinctes, mais qui vont reprendre en fait l'esprit des couvertures de Caprice, mais en le débarrassant de ses éléments fantastiques. Donc en fait, Charles Burns, dans Funeste Amour, va écrire des récits qui vont nous dire ce qu'il y a derrière la couverture. Je voudrais vous lire le texte, les deux lignes qu'il y a en deuxième plat de couverture. Les attirances du cœur sont irrépressibles. Elles nous poursuivent jusque dans les rêves. Au petit matin, nous nous réveillons possédés par des émois déraisonnables. Et donc, c'est ça qui est finalement mis en scène. On découvre une jeune femme qui va rêver, tomber amoureuse, rencontrer un homme, avoir une sorte de relation plutôt romantique. Il est séduisant et séducteur. Il l'appelle « ma petite poupée ». Et on va démarrer ce récit avec cette tonalité de romance. Et Charles Burns, comme il le fait avec ses couvertures de magazines réalistes, il va distiller aussi une sorte de perturbation dans cette romance à la nous deux, et il va y avoir vraiment une sorte d'emballement, et la fin du récit est assez remarquable. Ce qui est étonnant aussi, c'est la qualité du dessin, c'est cette façon incroyable, cette maîtrise du pinceau par Charles Burns, cette capacité à tracer un visage avec une sorte d'absolue perfection. Il va utiliser à très nombreuses reprises la silhouette, un peu comme Stéphane Blanquet l'a fait avec la nouvelle Opie. Et là, on a cette même précision dans la silhouette. Et d'ailleurs, la première histoire où cette jeune femme est séduite par cet homme, l'homme en fait va rester en silhouette. On ne va pas voir son visage. Il y aura juste cette présence noire et le focus est vraiment sur cette femme. Il y a des personnages masculins qui vont apparaître, alors plutôt avec la partie hospitalière du récit. Il y a accident, il y a des personnages bandés de la tête aux pieds. Et c'est beaucoup d'ironie aussi qui apparaissent. Et à chaque fois, le dessin, le trait de pinceau va être juste impeccable, juste parfait pour que on soit pleinement dans la scène, pour que rien ne perturbe le déroulé, si ce n'est le dialogue et les petites perturbations qui vont poindre au fur et à mesure de ce récit. Donc on n'est plus là avec la perturbation graphique d'un élément fantastique, mais on est plus dans une perturbation narrative qui va s'opposer et décaler avec cette esthétique et ce dessin d'une très belle fluidité, d'une très grande lisibilité, à base de silhouettes et de dessins réalistes, souvent avec des plans assez serrés pour être au plus près des personnages. Et puis il y a cette petite note que je voudrais vous lire. Donc en bas de la première page, on a une petite présentation le commentaire de Charles Burns, certainement, « Unwholesome Love » en version originale, publié en septembre 2004, et la nouvelle capitale du comics indépendant aux États-Unis d'Amérique, c'est donc Philadelphie. « C'est une œuvre de fiction un truc que j'ai inventé. Pigé ? Tous les personnages de ce livre ont au moins 18 ans et toutes les scènes de cul sont hors champ. Alors, commencez pas à vous tirer sur le slip. Dois-je vraiment faire une liste d'avertissements ? Si vous lisez encore ce message, peut-être que oui. Certaines scènes de ce livre dépeignent l'amour dans ce qu'il a de plus beau et de plus sale. Garde en tête, noble lecteur, que l'amour peut être bordélique et triste par moments, surtout pour des personnages de bande dessinée. Mais en ce qui me concerne, l'amour est la réponse. C'est un sommet. Funestes amours de Charles Burns, publié par les éditions Cornelius dans la collection Kim. C'est traduit par David Langlais. C'est lettré par Jean-François Rey, très grand réalisateur de lettrage que j'avais eu l'occasion d'interviewer dans Écriture dessinée. Et Charles Burns a fait tout le reste. Le prix de ces 32 pages, c'est 11 euros. Un sommet, vous dis-je. Merci, Issa, et très bonne semaine à tous sur les ondes de Radio Escapade. Écriture dessinée.